Jean chapitre 16, verset 20. Jésus parle à ses disciples. Et il leur dit ceci: en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. J'ai intitulé cette prédication « Que votre joie soit parfaite ou complète ». Alors ça commence mal parce que Jésus dit « Vous pleurerez et vous vous lamenterez ». Et il annonce à ses disciples, par ses paroles, il annonce le temps où il va être mis en croix et mis au tombeau. Et il annonce aussi la joie qui va suivre, la joie de la résurrection. Et nous-mêmes, nous savons que Jésus est ressuscité et nous savons combien c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais est-ce que nous sommes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la joie de la résurrection? Est-ce que nous ne perdons pas de temps en temps la joie de la résurrection? Plus largement, comment ne pas perdre sa joie en Jésus? À certains moments de notre vie, je pense que tous ici nous en avons fait l'expérience, on a reçu une parole de Dieu, on a entendu un enseignement, on a progressé dans sa vie spirituelle, on a éprouvé la présence du Seigneur. C'était une grande joie. Et puis quelque temps après, cette joie semble s'être émoussée, pâlie, on ne la ressent plus. Ou plutôt, on s'en souvient comme quelque chose du passé qui s'est enfui, mais dont on garde un souvenir un peu vague et en général nostalgique. J'ai fait une petite remarque. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne sait pas bien conjuguer le verbe « être heureux » au présent? C'est souvent au passé qu'on le conjugue, après coup. On se dit « tiens, à telle époque, j'étais heureux ». Ou peut-être, oui, je serai heureux plus tard, mais c'est difficile de se dire à un moment donné « là, je suis heureux ». C'est peut-être pour ça qu'on prend des photos. Pour pouvoir mieux se rappeler les bons moments. Mais ce n'est pas le projet de Jésus pour nous que nous restions dans la morosité, dans la nostalgie. Son projet, c'est que nous soyons dans la joie et que cette joie demeure. Ça marche pas de ça ? Si. Voilà. Et plusieurs passages des évangiles nous le soulignent. Jean 17, verset 13, Jésus parle à son Père, il dit « Maintenant je vais à toi, Père, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Un peu avant, Jean 15, verset 11, « Je vous ai parlé ainsi, dit-il à ses disciples, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Et puis ce passage que je vous invite à partager avec moi, Luc 10, verset 20, « Réjouissez-vous de quoi ? » De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus veut que nous soyons dans la joie, que cette joie vient de lui, c'est la joie du salut. Paul a écrit l'Épître aux Philippiens, il était en prison quand il a écrit. Et dans cet Épître aux Philippiens, il répète 5 fois « Réjouissez-vous ». Et 1 fois, il dit « Réjouissez-vous avec moi ». C'est beau pour quelqu'un qui est en prison quand même. « Réjouissez-vous avec moi ». Alors, qu'est-ce qui peut nous enlever notre joie ? On va regarder ça, qu'est-ce qui peut nous enlever notre joie pour trouver les remèdes, bien sûr. Ça ne sert à rien d'étudier les maladies s'il n'y a pas de remède. Hein ? L'oubli. Par exemple, Matthieu 13, verset 20, vous savez, c'est la parabole du semeur. Et Jésus explique la parabole du semeur en disant « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux ». Vous savez, la parabole du semeur, c'est un semeur qui sème et la semence va tomber dans différents endroits. Donc Jésus explique, donne cette parabole et puis quelque temps après, ses disciples lui disent « Écoute, explique-nous ». Et c'est une des rares paraboles qui nous est expliquée. Donc, Jésus explique, « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme, la femme, d'un moment. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il oublie sa joie d'un moment. » D'autres passages nous parlent encore de cet oubli. La deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, énumère tout ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions comprendre. Et 2 Pierre 1,9 dit « Celui qui ne possède pas cela est un aveugle. » Et un aveugle qui a les yeux fermés, il ne risque pas de voir. Il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses péchés. Il a oublié ce que le Seigneur avait fait pour lui. Et l'épître de Jacques, au chapitre 1, au verset 25, commence à nous donner un petit remède. Celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux, on retrouve la joie, sera heureux dans son action même. Alors comment lutter contre l'oubli ? En allant chercher régulièrement à la source. Vous vous souvenez de la manne dans le désert, ce pain qui venait du ciel et que Dieu donnait tous les jours, toutes les nuits plus exactement, aux Israélites. Ils devaient se nourrir, ils devaient aller la ramasser. Et on devait aller ramasser tous les jours ce qu'on allait manger dans la journée. On ne pouvait pas faire de trésor, on ne pouvait pas l'accumuler. Eh bien, c'est un peu comme la présence que nous ressentons du Seigneur dans nos cœurs. On ne peut pas dire « Oh, je vais en faire un gros tas dans mon cœur et comme ça je pourrais vivre des années sans... » Non, il faut revenir à la source, puiser. Et comment revenir régulièrement à la source ? Je crois qu'il faut se donner des règles. Des règles individuelles de lecture de la Bible, par exemple. Je veux lire régulièrement la Bible. Ou des règles familiales. Vous savez, chez nous, on a l'habitude de prier avant les repas. Et certains dans nos amis, dans notre famille, des chrétiens, trouvent que c'est un peu puéril. Que, voilà, c'est un peu une institution. Mais quand on regarde ce qui se passe chez ces personnes et qu'on regarde quel est le résultat, on se rend compte que, faute de faire les choses régulièrement, ils ne font plus du tout. Certains penseront, vous êtes venu ce matin, c'est très bien. Certains penseront que vous allez au culte tous les dimanches. C'est un peu puéril. On n'est plus sous la loi. On peut faire comme on veut. Mais que ceux qui pensent que ce n'est pas indispensable de le faire régulièrement prennent garde, ils finiront par ne plus y aller, par ne plus venir. Il y a des conseils curieux dans la Bible. Paul donne à Timothée un conseil très curieux. Timothée, ce n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui l'a envoyé comme responsable d'église. Et Paul a le culot de lui dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». C'est comme si on me disait « N'oublie pas ton stéthoscope ». Enfin, je veux dire, c'est le béaba. Comme si on demandait à Pierre-Yves « T'as lu la Bible un jour ?» Je dirais « Mais pourquoi est-ce qu'il lui dit ça ?»« Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. » Voilà ce que Paul a le culot de dire, de conseiller à Timothée. Et peut-être bien qu'à certaines époques, l'Église a un peu oublié Jésus-Christ et s'est plus préoccupée d'elle-même que de Jésus-Christ. Alors, il y a aussi les aides-mémoires de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est notre constructeur. Il sait de quoi nous sommes faits. Et donc, il sait aussi où sont nos points de faiblesse. Et il sait qu'on oublie facilement. Alors, il n'y a qu'à ouvrir l'Ancien Testament pour se rendre compte que régulièrement, il y a des aides-mémoires que Dieu donne. Vous voulez vous souvenir de la sortie d'Égypte ? Eh bien, il y a la Pâque. Chaque année, vous allez immoler la Pâque. C'était une règle pour son peuple. Hein ? Comme ça, vous vous souviendrez que vous étiez esclave en Égypte et que je vous ai fait sortir d'Égypte. Et puis, vous voulez vous souvenir que vous avez traversé le Jourdain ? Là aussi, on va faire un monument pour s'en souvenir. Se souvenir que vous êtes pécheur, eh bien, chaque année, il y aura le grand jour des expiations pour pardonner le péché. Ça, c'était pour l'Ancien Testament, mais pour le Nouveau, qu'est-ce que nous venons de faire ? Qu'est-ce que Jésus a dit ? Faites ceci en mémoire de moi. Et je reste persuadé que s'il n'y avait pas eu ce symbole, peut-être que maintenant, au XXe siècle, les chrétiens qui resteraient ne se souviendraient même plus que leur salut, ils le doivent à la croix de Jésus-Christ. Alors, d'autres aides-mémoires, ben, il y a la Bible elle-même, hein, c'est un aide-mémoire quand même, hein, c'est ce souvenir. Il y a la scène, il y a l'Église en tant que groupe. Dans une Église, qu'est-ce qu'on fait ? On partage ce qu'on a reçu du Seigneur. Et du coup, on entend ce que d'autres ont à dire et ça ravive notre mémoire. Il y a les chants. Les chants, c'est un bon aide-mémoire. Parfois, quand on est un peu dans la peine, on se souvient d'un chant, parfois peut-être même plus que d'un verset biblique, et on se retrouve sa joie. À une chose terrible, à côté de l'oubli, ça y ressemble, mais ce n'est pas tout à fait l'oubli, l'habitude. On n'a pas oublié Dieu, mais on s'est habitué à sa grâce. On s'est habitué à son amour. Et finalement, ça devient presque comme un dû, comme quelque chose que Dieu nous doit, alors qu'il ne nous doit rien. C'est un peu la même chose dans certains couples. Hein. On a oublié l'émerveillement de la découverte de l'autre. Et c'est d'ailleurs un peu ce que Jésus va dire à une église dans l'Apocalypse 2, verset 4. « J'ai une chose contre toi, tu as abandonné ton premier amour. » Parole terrible. Est-ce que Jésus pourrait nous dire « Tu as abandonné ton premier amour ? » Tu t'es habitué à ma grâce? Alors, quel est le conseil qu'il lui donne? Je lis la suite. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ce souvenir d'où nous venons, de notre état d'homme pécheur, de notre état d'âme, de notre état d'homme sans droit devant Dieu, réaliser à nouveau tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Paul rappelle aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 12, il dit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et ça, il le dit aux Éphésiens, mais c'est vrai pour nous. Avant de connaître Jésus, avant de le reconnaître comme notre Sauveur, nous étions sans Christ, sans droit de cité dans le peuple de Dieu, étrangers à la promesse, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, poursuit Paul, en Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Ce souvenir d'où nous venons, ce souvenir aussi de ce que Dieu nous promet, de notre espérance. On peut le déduire en négatif de ce passage que je viens de lire. Hein. Nous sommes devenus participants à la promesse. Nous sommes devenus avec une espérance. Nous sommes devenus avec un Dieu et avec une espérance éternelle. On peut se souvenir aussi des grandes étapes de notre vie, des moments où Dieu nous a aidés, nous a relevés de nos chutes, nous a accordé une victoire. Et des grandes étapes aussi de ce que d'autres ont pu nous dire. On retrouve la raison de l'Église. Paul, par exemple, se souvenait de Timothée, et à un moment particulier, de Timothée 1,4, « Je me souviens de tes larmes, et j'ai le vif désir de te revoir » et d'être rempli de joie. On peut se dire pourquoi il a de la joie en se souvenant des larmes. C'est probablement de larmes de joie, en fait, que Timothée avait versées. Et la raison de l'Église nous est donnée aussi par Paul, Colossiens 3,16, que la parole de Dieu habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, psaume 150 par exemple, par des hymnes, par des cantiques spirituels, et sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Voilà des choses qui peuvent nous permettre de lutter contre l'habitude. C'est nous souvenir d'où nous venons, nous souvenir de ce que Dieu nous promet, et rééprouver toutes les bénédictions que Dieu nous a données à nous, ou à nos frères et sœurs quand ils nous en ont parlé. Voilà des choses qui secouent l'habitude. Alors, autre chose qui peut nous éloigner de notre joie, ou la recouvrir, j'ai fait des tâches qui recouvrent la joie. Les soucis, les distractions, le péché. On retrouve la parabole du semeur, où Jésus dit « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde » et la séduction des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. Alors les soucis, c'est quoi? C'est les ennuis réels, hein, on en a tous. Et puis il y a ceux que nous créons en plus. Et tout ça peut nous faire perdre la joie de notre salut. Dans ce cas, nous devons faire l'effort de nous confier en Dieu, plutôt que de rechercher en nous des forces bien faibles. Dans cet épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 6, Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière, la supplication avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées et vos cœurs en Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas si facile. Si on s'en tient là, souvent le remède n'est pas efficace. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes. Ma maman me racontait toujours, souvent une petite histoire d'une vieille dame qu'elle avait connue, qui avait beaucoup de soucis de santé, de famille. Et quand on lui disait, quand on s'apitoyait un peu sur son sort, elle répondait toujours « Oui, mais le Seigneur le sait ». Et c'était sa consolation de dire « Bon, tout ne va pas bien comme je le souhaiterais, mais le Seigneur le sait. Je ne me sens pas orpheline. » Alors, avec les soucis, on peut aussi y rajouter la fatigue, le découragement. En toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes. Dans la parabole du semeur sont aussi les plaisirs, les distractions. Vous savez ce que ça veut dire, distraire? Oui, ça veut dire tirer sur l'extérieur. Hein? Et le philosophe Pascal faisait remarquer que les hommes cherchent à se divertir pour éviter de se convertir. Et tout au long de la vie chrétienne, les divertissements peuvent faire diversion et détourner notre pensée de la vraie richesse, la foi, les vraies joies de la foi. Et puis il y a le péché lui-même qui peut masquer, étouffer la joie du Seigneur, le péché que nous commettons et qui prend tellement de place dans nos vies, la colère, la jalousie, la cupidité et les dérèglements divers. Quelqu'un a dit, quand on persiste, soit le péché fait cesser la prière, soit la prière fait cesser le péché, c'est difficile à dire, excusez-moi. Pour le dire dans l'autre sens, la prière devra faire cesser le péché, sinon le péché fera cesser la prière. Et Paul, toujours lui. Donc on a vu, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. Et Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et quand il parle là, c'est la richesse, la recherche de la richesse. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Un peu plus loin, il lui dit, fuis les passions de la jeunesse. Alors pour certains, c'est plus facile de fuir les passions de la jeunesse que pour d'autres, peut-être, quand on en est plus loin. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On retrouve l'aide peut constituer pour nous le fait d'être dans une communauté. Alors il ne s'agit pas de se cantonner à un ascétisme, à une austérité ennuyeuse, mais de ne pas faire la recherche du plaisir une passion qui vient parasiter, masquer les joies qui viennent du Seigneur. Et puis, une dernière chose qui peut nous masquer, abîmer notre joie, la joie de notre salut, la joie de la résurrection, c'est les complications. Nous sommes des gens compliqués. Il y a un texte de l'Ecclésiaste qui dit « Dieu avait fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des complications. » Et si on étudie l'histoire de l'Église, la liste est longue de toutes les complications que les hommes ont rajoutées à la grâce de Dieu et qui les ont tellement préoccupés qu'ils ont finalement oublié cette joie de la grâce de Dieu. Elle est passée au second plan, Lorsque Constantinople est tombée, a été prise par les musulmans, il y avait à ce moment-là, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais un colloque, un concile, qui étudiait le point suivant. Est-ce que si une mouche tombe dans de l'eau bénite, est-ce que la mouche est bénite ou est-ce que l'eau bénite est gâtée, est souillée? C'est primordial comme point de la foi, n'est-ce pas? Mais c'est facile de se moquer des autres. Plus proche de nous, en nous, est-ce que parfois des points de détail ne prennent pas plus de place, trop de place, que notre simple joie de croyant? Je suis frappé parfois par les passions, j'allais dire suspectes, qui animent certains chrétiens lorsqu'ils abordent le déroulement des temps de la fin, par exemple, avec les différentes options possibles. Et dans certains milieux, on se jette des anathèmes les uns les autres en disant « Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. » Ou les temps du début, la création. Parfois aussi, les remous que peuvent produire dans notre cœur une simple réflexion d'un frère ou d'une sœur qui nous a dit un mot bon, qu'on a mal compris ou, bon, et qui vont nous perturber toute la journée alors que ça n'a pas valeur à faire cela. Paul, quand il était à Corinthe, il va le leur rappeler dans son épître, 1er épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. Il dit « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus et Jésus-Christ crucifié. » Alors, si on prend l'épître aux Corinthiens, il va parler d'autre chose. Il va parler de points qui pourraient être plus de détails. Mais tout ça, c'est toujours secondaire par rapport à la croix de Jésus, la source de notre foi, de notre joie. Il dit aussi aux Colossiens que Dieu les a réconciliés, Colossiens 1:22, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. C'est une bonne nouvelle ça quand même. Il vous a réconciliés pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie, pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Le projet de Dieu, le projet de Jésus, magnifique, nous faire paraître devant lui saints, sans défaut, sans reproche, si vous demeurez dans la foi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'Évangile. Et qu'est-ce qui pouvait emporter les Colossiens loin? On le trouve un peu plus loin, Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. On entend beaucoup de choses. On entend un peu moins. Je crois que la date est passée, mais je ne sais pas que la fin du monde part d'après les Incas ou les Mayas ou les Aztèques, je ne sais plus, devait être programmée pour 2012. Hein? Ah ben je vois qu'il y a des gens au courant. Merci mon cousin. Donc le 21 décembre, ah ben, parce qu'on en entend quand même un peu moins parler, là. Je trouve qu'à une époque on en entendait beaucoup parler. Prenons garde, que même l'intérêt qu'on peut avoir pour ces choses est quelque part quelque chose qui est volé au Seigneur. Revenir à l'essentiel, à la joie de la résurrection. Je me dis parfois que si nos prières en Église sont peu nombreuses, ce n'était pas le cas ce matin, hein, soyons honnêtes, hein, c'est peut-être que nous avons peu de joie à partager. Et si c'est vrai, alors un effort de mémoire est nécessaire pour chacun de nous. À quand remonte ma dernière lune de miel avec le Seigneur? Pourquoi cette joie est-elle partie? Comment la retrouver? Et je vous suggère que c'est une recherche prioritaire, de retrouver la joie avec le Seigneur. Alors, je vous ai suggéré quelques pistes. Aller chercher régulièrement la source. Nous fixer des règles et nous y tenir sans rigidité, mais quand même, elles ont de bonnes choses à nous apprendre. Nous souvenir d'où nous venons. Nous n'avons devant Dieu absolument aucun droit, sinon la perdition éternelle. C'est ça d'où nous venons. C'est ça notre destin de départ. Et nous souvenir de ce que Dieu nous promet. Nous promet la vie éternelle qui commence dès le moment où nous avons accepté que Jésus soit notre Sauveur. Et cette vie éternelle qui, bien sûr, n'aura pas de fin. Voilà notre espérance. Nous souvenir aussi de ne pas nous laisser cacher notre joie par les soucis. Ne nous inquiétons de rien, mais faites connaître en toute chose à Dieu nos demandes, avec des supplications, mais aussi des remerciements, des actions de grâce. Nous débarrasser du péché qui nous enveloppe si facilement, dit l'Épître aux Hébreux. Fuir les passions. Les passions, ce n'est pas quelque chose qui est forcément mauvais au départ, mais qui le devient par l'emprise que ça peut avoir sur nous. Il y a quelques motards parmi nous. La moto, ça peut être une passion. Ça peut être quelque chose qui vous prend tellement du temps que ça va empêcher notre temps de communion avec le Seigneur. Ça va, oh tiens, plutôt que d'aller au culte, j'irai bien faire un tour à moto. Ben voilà. Excuse-moi Jean, j'ai pris... J'ai pris un exemple comme ça, mais je sais que pour toi, ce n'est pas un piège. Et revenir toujours à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi le moment, le seul moment dans l'histoire des hommes, le moment le plus important, l'histoire, le moment où l'histoire a basculé, c'est le moment où Jésus, mis sur une croix, est mort. Et le moment où, 3 jours après, il est revenu à la vie. C'est un moment clé. Il n'y a aucun autre moment de l'histoire comme ça, puisque c'est le moment où Dieu a réglé le problème du péché. Et comme ce moment est un moment qui nous fait vivre, c'est à lui que nous devons revenir. Revenir à l'essentiel. Nous débarrasser des complications. Et si les complications prennent trop de place dans notre vie, savoir les mettre au second plan. Voilà, ben que Dieu vous, nous bénisse et nous rende notre joie.